Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Tension migratoire en Italie, retour des migrants sur la route des Balkans, multiplication des jungles, comme on les appelle, comme à Calais, ces camps de fortune où s'entassent les candidats au passage vers le Royaume-Uni. En Méditerranée et dans la Manche, les migrants seraient de plus en plus nombreux à tenter le passage. Jusqu'à présent, c'était essentiellement des personnes venues du Proche et du Moyen-Orient qui espéraient obtenir l'asile au Royaume-Uni. Mais depuis le début de l'été, les Albanais sont devenus les plus nombreux, Simon Rico.
Les médias britanniques s'enflamment face à l'explosion du nombre de ressortissants albanais qui arrivent irrégulièrement au Royaume-Uni. Sur les 6 premiers mois de l'année, 2165 d'entre eux ont été comptabilisés par le ministère de l'Intérieur sur un total de 12 747 migrants irréguliers. En 2021, sur la même période, ils n'avaient été que 23. Or, ces chiffres ne rendent pas compte du pic estival et le ministère indique que 6 migrants sur 10 arrivés par la Manche en juillet et en août venaient d'Albanie. Difficile d'expliquer une telle hausse, mais la police britannique assure que des gangs albanais spécialisés dans le business de cannabis organiseraient le trafic. Sur TikTok, on trouve des récits en albanais et en anglais expliquant comment rejoindre Calais depuis Tirana. Certains proposent même de faire le trajet gratuitement en minibus. Quant au prix de la traversée de la Manche, il se monnaierait ensuite autour de 4000 livres, plus de 4500 euros. Avec des départs quotidiens, apprend-on toujours sur TikTok. Mais le Royaume-Uni n'est pas le seul pays européen que les Albanais tentent de rejoindre, outre les quelques 5000 demandes d'asile déjà déposées cette année auprès des autorités britanniques, près de 10 000 autres l'ont été auprès d'un pays membre de l'Union européenne. L'exode des Albanais n'est toutefois pas nouveau. Entre 2010 et 2019, près de 200 000 d'entre eux ont demandé l'asile au sein de l'UE, alors même que la plupart sont déboutés puisque leur pays est considéré comme sûr. En 2020, une enquête révélait que près de la moitié des Albanais avaient déjà entrepris des démarches pour quitter le pays et tenter leur chance dans un environnement considéré comme plus sûr.
Pour lutter contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique, la tourbe devrait bientôt être interdite. En Irlande, chaque hectare de marais asséché émet 2 tonnes de CO2 par an. Mais face à la crise énergétique que traverse l'Europe, face au mécontentement, le gouvernement irlandais avance pas à pas. Les Irlandais sont profondément attachés à cette source d'énergie ancestrale. C'est une alternative trouvée au bois en l'absence de forêt. Et aujourd'hui, près de 15% s'en servent encore pour chauffer leur maison, en particulier dans les zones rurales où les familles coupent la tourbe depuis des générations. C'est un reportage dans le comté de Sligo avec Laura Taouchanoff.
Dans ce petit village, on voit la même fumée blanche s'échapper de toutes les cheminées avec cette odeur de terreau propre à la tourbe. Nous sommes chez Thomas Healy, un conseiller régional du comté de Sligo.
Vous voyez, notre feu de tourbe est allumé. On en dépend tous dans l'ouest de l'Irlande. C'est un feu accueillant, ça chauffe toute la maison, les 14 radiateurs. On a deux seaux des deux côtés du poêle, ça me coûte 600 euros par an. Donc chaque année, je sais exactement combien je dois mettre de côté. C'est ça la beauté de la tourbe.
Ces briquettes de tourbe, Thomas les stocke soigneusement dans son garage.
Certaines sont là depuis 3 ans. J'ai ce qu'il faut pour tenir les 2 prochaines années.
À l'automne, son fournisseur n'aura plus le droit de lui vendre de la tourbe. Il pourra uniquement en couper pour son usage personnel et ses voisins, par exemple, mais plus le commercialiser à grande échelle.
Tout le monde brûle de la tourbe ici. On n'a pas d'autres moyens pour chauffer nos maisons. Par exemple, la mienne a été construite au début des années 80. Si on devait se lancer dans des travaux de modernisation, ça nous coûterait 70 000 euros. Personne ne peut payer ça. Notre gouvernement serait prêt à nous demander d'arrêter la tourbe, mais sans nous donner une alternative. Donc on devrait mourir de froid. Ici, dans l'ouest de l'Irlande, on dit que trop, c'est trop.
Au Au-delà de l'aspect économique, c'est aussi une tradition ancestrale à laquelle les Irlandais sont très attachés. Pour le comprendre, Thomas veut nous présenter quelques coupeurs à la tourbière.
Là, vous n'avez que des bogues, des tourbières. Vous voyez cet homme qui charge des palettes, il est prêt à ramener la tourbe chez lui. Et il est plus en avance que moi.
On arrive dans des champs marécageux. Un novice pourrait confondre ces terrains mouvants avec de la boue, mais l'homme au béret qui s'avance sait exactement où trouver cet or brun avec sa pelle.
My name is Neil Henry.
Je m'appelle Neil Henry et j'ai coupé de la tourbe toute ma vie. Il y a 50 ans, on avait une pelle et on récoltait tout à la main.
La main anesthésiée par le vent, le retraité est en train d'extraire quelques morceaux rectangulaires du marais.
On les empilait sur la brouette comme ça, mais depuis 40 ans, les machines le font à notre place. Ça fait des générations qu'on le fait. J'ai commencé avec mon père et à 16 ou 17 ans, je suis rapidement devenu le chef ici. Ici, à la tourbière, l'air est si pur. Vous entendez les oiseaux chanter. On se réjouit d'avance à l'idée de venir.
Ces lingots noirs vont ensuite sécher plusieurs semaines pour limiter la fumée dans les cheminées. Le problème, c'est que cette matière organique, bourrée de carbone, émet plus de CO2 que le charbon, tout en produisant moins d'énergie.
Je trouve qu'on exagère l'impact sur l'environnement. On utilise des machines légères et on transporte la tourbe pas très loin. Tout est local. On est catégorique, on continuera à venir couper.
Avec la flambée des prix de l'énergie, cette perte d'autonomie inquiète son ami Martin.
Il nous coupe l'herbe sous le pied. On n'a pas les moyens d'acheter du fuel. Tout a augmenté. On ne fait rien de mal. Ce sont les avions dans le ciel qui polluent. On est venu à la tourbière pendant les 2 ans de confinement et le ciel était si clair. C'est pas le fermier avec ses 200 sacs de tourbe le problème. Ça fait des années qu'on fait ça. Mais il faut bien blâmer quelqu'un.
Selon les chercheurs, ces puits de carbone sont des écosystèmes essentiels et ne doivent plus être vidés pour préserver la qualité de l'air et la biodiversité. Mais pour ses occupants, c'est une énième guerre entre les élites de la ville et les communautés rurales.
Les Européens mesurent tous l'ampleur du changement climatique qui s'annonce. En Italie, les vignerons, par exemple, sont inquiets en pleine période de vendange. Les fortes chaleurs et le manque de pluie de cet été 2022 ont eu un impact direct sur le raisin. Le syndicat agricole italien Coldiretti estime qu'en moyenne, la péninsule connaîtra une baisse de 10% de sa production cette année. Les détails avec notre correspondante Cécile Debarge.
C'est un avant-goût inquiétant de ce à quoi pourrait ressembler la production de vin italien dans les prochaines décennies. Les études les plus optimistes évoquent une production divisée par 2 d'ici 2050, les plus pessimistes un écroulement de 90% si le réchauffement global se situe autour de 4 degrés. Des chiffres catastrophiques pour l'Italie, premier producteur de vin de l'Union européenne. Pourtant, l'auteur de cette étude alarmante publiée par la revue américaine Proceedings of National Academy of Sciences propose une solution. Adapter les vignobles aux nouvelles conditions climatiques en changeant les variétés plantées. La suggestion est d'autant plus intéressante que ce sont les régions du nord du pays qui souffrent le plus. Dans certains vignobles de Ligurie, la production a baissé de 40% et jusque moins 60% en Lombardie. A l'inverse, les pertes sont estimées entre 5 et 10% à peine, voire à un maintien des récoltes en Sicile. Détail important, les qualités aromatiques semblent intactes pour la saison. Parmi les vignobles qui tirent particulièrement leur épingle du jeu, ceux de l'Etna, dont le sol volcanique est particulièrement riche en pierres ponces. Cette roche poreuse conserve particulièrement bien l'eau accumulée pendant l'hiver. Les vignerons ont aussi remarqué que les vignes les plus vieilles résistent le mieux, leurs racines profondes parviennent à mieux capter l'eau. Autant de techniques dont les agriculteurs italiens doivent s'inspirer pour sauver ce secteur qui pèse lourd dans l'économie italienne. Sur les 4 premiers mois de l'année 2022, l'Italie a vendu près de 653 millions de litres de vin à l'étranger pour un montant de plus de 2 milliards d'euros, soit plus de 12% de croissance par rapport à 2021.
C'est un nouveau défi qui se pose à l'Europe, développer des forêts plus résilientes pour protéger les bois européens contre le réchauffement climatique. L'Office national des forêts tente donc d'identifier les essences les plus adaptées aux différents sols, au climat, pour accélérer leur migration géographique naturelle vers des zones plus favorables. Ça s'appelle la migration assistée. C'est un reportage dans le Jura de Laurence Théo.
Pantalon vert et polo estampillé Office national des forêts, Brigitte Muche, généticienne, nous invite à regarder le ciel qui se découpe à travers les branches d'un arbre. Non pas pour se laisser aller à la poésie, mais pour alerter. Ce être est en souffrance.
Il est en train de mourir de soif et de mourir de faim. On a des sécheresses à répétition et l'arbre, il puise l'eau dans le sol. Et quand il n'y a plus d'eau, ce qui puise, c'est de l'air. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il puise de l'air? Dans ces vaisseaux se forment des bulles d'air. Comme nous, lorsque nous faisons une embolie, l'arbre fait une embolie.
Les arbres de la forêt domaniale du Chanois, dans le Jura, dépérissent à cause du réchauffement climatique. Le climat que l'on projette dans 30 ou 50 ans va se rapprocher des conditions méditerranéennes. Donc les forestiers plantent des espèces plus à même de supporter la chaleur. En tout, 15 espèces réparties en 269 pouces se ferait un chemin entre les ronces. Lilian Duban, ingénieur forestier.
On n'y est pas encore, il faut qu'on progresse un petit peu. Ils ont chacun un petit piquet pour qu'on puisse les repérer.
Ah voilà, je le vois.
Et voilà le jeune plant qui a été installé donc, en mars. Donc là, on est sur une espèce méditerranéenne qui a été élevée dans une pépinière expérimentale de l'ONF dans les Bouches-du-Rhône, à Cadarache. Et c'est un pin d'Alep, donc un pin typique du bassin méditerranéen, très résistant aux sécheresses. C'est vraiment le pin qu'on a l'habitude de voir au bord de la Méditerranée et qui est par contre réputé plus sensible au froid, d'où le fait de le tester ici à presque 700 mètres d'altitude dans le massif du Jura.
Du coup, Lignon, tu as prévu de les mesurer ?
On est à 700 mètres d'altitude et c'est une expérimentation. Les forestiers sont donc dans l'expectative.
C'est difficile d'avoir une idée a priori parce que c'est des espèces méditerranéennes qui ne sont pas du tout habituées à ce climat. Là, les plants, on les a plantés fin mars. Deux semaines après, ils étaient recouverts par 20 cm de neige, ce qui n'est pas tout à fait normal pour certaines des espèces qui sont ici. On voit que ça n'a pas posé problème et on va continuer d'apprendre année après année avec des conditions différentes.
On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça, c'est tout le sel de la recherche aussi. C'est de ne pas avoir de choses dont on connaît la réponse avant de commencer. C'est pour ça qu'on fait de l'expérimentation. Par contre, ce qu'on s'interdit, c'est d'introduire des espèces dont on sait qu'elles sont envahissantes. C'est-à-dire qu'elles vont modifier l'écosystème autour parce qu'elles vont avoir soit une reproduction par le système racinaire, soit par les graines, tellement importantes qu'elles vont complètement dominer la forêt.
Pourquoi parle-t-on de migration assistée alors que les graines d'arbres sont déplacées par le vent ou par les oiseaux ? Brigitte Muche, généticienne à l'ONF.
Naturellement, les arbres se déplacent. On ne l'imagine pas, mais nos arbres, ils migrent comme les hommes. Mais ils migrent à un pas de sénateur. Ils migrent à leur vitesse. C'est-à-dire qu'ils vont faire que quelques kilomètres tous les 10 ans. Or, ce qu'ils auraient besoin de faire, c'est plus de 100 kilomètres tous les 10 ans. Donc l'homme joue ce rôle de TGV pour les arbres en les amenant ici en forêt.
Ainsi, feuillus et résineux sont acheminés dans le Jura.
Là, voilà, on est sur un chêne méditerranéen, le chêne de Hongrie. Donc là, comme son nom ne l'indique pas, ceux-là viennent de Bulgarie. Et il y a un autre chêne qui est plus typique du sud de la France, qu'on peut aller voir juste à côté, qui s'appelle pubescent. Pubescent, c'est les poils qu'il a vraiment dessous. Et donc là, on voit vraiment le côté dufteux là, sur ces petites pousses toutes neuves.
Ah oui, c'est vraiment dufteux.
Donc là, il a fait sa première pousse et puis les conditions lui vont. Donc là, il enclenche une deuxième pousse.
C'est international, là, et ces essences viennent d'un peu partout. Hein.
Ah oui, là, on a du sapin qui vient de Grèce, on a du chêne qui vient là, de Bulgarie, le pubescent, il est peut-être bien italien. On a un chêne chevelu qui est peut-être italien ou bulgare, je ne sais pas. Mais oui, on est dans un rassemblement international, un Erasmus de la forêt.
Il faut s'accroupir pour observer les plants de pin d'Alep, chêne chevelu ou noisetier de Byzance. Mais si on prend un peu de hauteur, on réalise que l'enjeu est immense, car sur leurs petites branches repose la forêt de demain et elle est essentielle pour lutter contre le changement climatique.
La bonne nouvelle de Clémence Pénard en partenariat avec Enter. Elle nous vient d'Espagne, où la Mar Menor vient d'obtenir le statut de personnalité juridique. C'est une première pour un écosystème en Europe.
Au fond, c'est un juste retour des choses. Depuis des années, on verse dans ce vaste étang toute l'eau polluée par l'exploitation minière dans la région et l'utilisation d'engrais. Les systèmes d'égouts défectueux n'arrangent évidemment pas la situation. La lagune a d'ailleurs frôlé l'effondrement écologique. D'ordinaire cristalline, ses eaux virent à la soupe verte il y a 6 ans. On parle d'eutrophisation. À cause de la pollution, le milieu reçoit trop de matières nutritives pour les algues et en conséquence, celles-ci prolifèrent. Premier avertissement, le suivant arrive en août 2021. Morts par asphyxie, 15 tonnes de poissons sont ramassées sur les bords de la lagune. Ils sont 640 000 citoyens à se mobiliser pour que la Mar Menor soit reconnue en tant que personnalité juridique. C'est chose faite aujourd'hui, la loi a été votée au Sénat espagnol. Et grâce au nouveau statut de la lagune, n'importe qui pourra intenter une action en justice en son nom. Réparation pourra être demandée. Ailleurs dans le monde, il existe d'autres exemples de reconnaissance des droits de la nature. Le parc national de Te Uruwera en Nouvelle-Zélande ou des fleuves et rivières du Bangladesh. L'Europe emboîte donc enfin le pas dans le développement de ces nouveaux mécanismes de protection de l'environnement.
Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un royaume enchanté, une petite ligne de basse bien ronde.
Musique.
La musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Vous nous emmenez cette semaine en Scandinavie.
Je vous propose aujourd'hui de découvrir un groupe vraiment pas comme les autres, les étonnants Suédois de Goat, aujourd'hui basés à Göteborg, mais qui sont originaires de Korpilombolo, petit village tout au nord de la Suède, riche en traditions folkloriques. Depuis maintenant une grosse dizaine d'années, les 6 musiciennes et musiciens de Goat jouent aux alchimistes. En mélangeant funk, free jazz, rock psychédélique et folklore de tous horizons, sur scène, ils portent d'incroyables costumes colorés et des masques ornés de perles et de plumes. Après 6 ans de silence, Goat vient tout juste de publier son 4e album, Oh Death.
Suédois de Goat dans Accent d'Europe avec Chukwa Pessa. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.